Toutes et à tous, j'espère que je ne vous réveille pas. Non, ça va, vous savez, c'est la pêche. Alors j'ai péché. Qui s'occupe de la Sainte-Seine en fait maintenant? Je ne sais plus. Qui s'occupe? Personne. J'ai cassé mon petit verre. Trop puissant dans les mains. Je confesse mon petit péché. Un Toblerone. Oh, ça c'est dur. Hein. Allez, je mangerai pour toi. Alors voilà, avant la prédication, etc., on a discuté avec les anciens et on s'est dit que ce serait très chouette, en fait, vraiment très chouette, de pouvoir accompagner les étudiants. On a la chance d'avoir des jeunes étudiants qui commencent l'UNIF ou qui terminent les humanités, etc. On voudrait vraiment nous associer à vous et en priant pour vous. On voudrait que tous les étudiants, ceux qui le désirent, hein, ceux qui ne veulent pas de coup de main de Dieu, restent assis. Mais ceux qui veulent un coup de main... C'est un peu provocateur, hein, ça fait exprès. Donc ceux qui veulent un coup de main, nous on aimerait vraiment que tous les jeunes se lèvent, s'avancent, et on va vraiment prier pour vous, moi et Stéphane. Stéphane et moi, pardon. Stéphane, tu peux venir en premier. Alors on ne mord pas, on ne frappe pas, ça ne fait pas un mal. Hein. Que les premiers s'avancent, voilà, bien Maxime, Guillaume, voilà, toi, voilà. Le plus dur c'est le premier, après, à moi, pas de problème. Voilà. Wow, mais quelle chance, aujourd'hui c'est vraiment chouette. Alors juste, est-ce que chacun peut dire ce qu'il fait en 2 secondes? Deux. Par exemple, je fais mon exemple, Benoît Pasteur. Hop, je suis bon.
Noé, étudiant en sciences politiques.
Sciences Po, c'est bien.
Damaris, étudiante en histoire.
Histoire, c'est chouette. Est-ce que le micro ne peut pas être cassé comme ça, si?
Il peut parler un peu plus fort.
Voilà, Maxime, études sociales.
Sociales.
Maxime, étudiant en droit.
Déborah, étudiante en journalisme.
Thibaut, étudiant en sciences éco.
Adriana, étudiante en droit. Aurore, étudiante en sciences éco et gestion.
Aurore, en cinquième année au Collège Christ III.
Marine, en réto.
Michael, en réto. Jérémy, en réto.
Guillaume, étudiant en école biblique.
Voilà, c'est chouette d'avoir tous des jeunes comme ça qui font plein d'études. Voilà, et comment se remettre. Voilà, comme ça. Moi, je suis pas technicien du tout. Voilà. Tu touches plus à rien. Voilà. On va prier pour vous, on va imposer nos mains, s'il n'y a pas de truc magique. Alors, un truc, on ne prie pas pour vous pour que vous réussissiez sans travailler. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. J'ai essayé, enfin, pas moi, des amis ont essayé, ils n'ont pas réussi. Donc, nous, on veut juste vous dire ceci. Faites votre part sérieusement, travaillez, étudiez, ça fait mal étudier. On ne réussit pas sans transpirer. Enfin, moi, je n'ai jamais réussi comme ça. On ne réussit pas sans transpirer, et quand tu fais ta part, Dieu fera la sienne. Ça, j'y crois fermement. Fais ta part, Dieu fera la sienne. Okay? Donc, n'allez pas dire après, chouette, les anciens ont prié pour nous, on va réussir sans problème, sans étudier. Je n'ai pas dit ça. Celui qui dit ça n'a rien compris. Okay? On est bien clair. Hein? Mais on veut que Dieu vous accompagne, parce que ce n'est pas toujours facile d'étudier. Ne fût-ce que pour des bonnes rencontres, etc., etc. Ok ? Prions. Stéphane, tu peux commencer ?
Notre Père, nous voulons vers toi ce matin pour prier particulièrement pour les jeunes. Ce matin, nous avons parlé de service, nous avons parlé d'amour pour toi. Et la première chose que je veux te demander pour chacun de ces étudiants, c'est qu'il y ait un amour fervent pour toi, qui réponde à cet amour que toi, tu leur as donné. Que tu les bénisses, Seigneur, que ce soit le motif de leur vie à partir de maintenant, Seigneur, et que leurs études soient empreintes de cet amour que toi tu as pour eux, mais que eux puissent aussi avoir pour toi. Je te demande que tu les bénisses particulièrement. Je te demande que tu sois avec Guillaume, Seigneur, qui entame ses études avec l'Institut biblique. Je te demande que tu gardes, Seigneur, que tu diriges. Et nous te demandons la même chose pour chacun des étudiants ici, Seigneur, parce que c'est un point de départ, et tu nous demandes de servir non seulement dans l'Église, mais en dehors de l'Église aussi. Et nous te demandons que le métier qu'ils vont faire plus tard, qu'ils commencent avec ces études, puisse être dirigé vers toi et pour toi, et que ça passe pour ta gloire. Nous te demandons de leur donner toutes les forces nécessaires aussi pour ça. Bénis le Seigneur.
Amen. Seigneur, je m'associe à la prière de Stéphane. Veuille bénir chacun des étudiants ici, Seigneur, pour que tu puisses donner la force, Seigneur, la grâce, et puis que tu puisses faire ta part, mais qu'ils puissent faire la leur. d'une manière irréprochable, Seigneur, que tu puisses faire ta part aussi. Et puis, Seigneur, dirige-les pour leur foi aussi. Je sais que les passages à l'université, ce n'est pas toujours évident pour la foi, Seigneur, mais sois avec eux, qu'ils puissent la garder, l'augmenter et sortir de là plus fort, Seigneur. Et je te prie aussi pour que tu fasses d'eux, non la queue, mais la tête, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Bon blocus. Ben, il faut déjà préparer, hein, c'est bientôt. Voilà, voilà. Alors, le texte que nous allons lire aujourd'hui, c'est un texte qu'on a déjà pris plus ou moins, mais c'était un culte porte ouverte. Alors j'ai changé, j'avais dit un texte, mais j'ai pris un autre, tu vas voir, mais c'est un peu le même thème, donc ça va. Et donc, parce que voilà, c'est important aussi. Et puis il faut aussi dire ce que Dieu met sur notre cœur, c'est important. Et Dieu a mis sur mon cœur ce matin un texte particulier, et je vais commencer par une prière. Seigneur, bénis-nous ce matin, que nous puissions ouvrir nos cœurs et mettre ta parole en pratique, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors le texte se trouve dans Luc, l'évangile de Luc, le chapitre 15, versets 1 et 2. Luc 15, la version La Colombe, Louis II révisé, 1978. Pour être sûr d'avoir la bonne. Voilà. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient: celui-ci accueille des pêcheurs et mange avec eux. Suite, versets 15 et suivant. 11 et suivant, pardon. Voilà. C'est une parabole qu'on connaît tous. Hein. Il dit encore à un homme avec deux fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune des fils rassembla tout ce qu'il avait en part. Pardon. Viens vieux, hein. C'est écrit en rouge, je ne sais pas. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Entré en lui-même, il se dit: combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai: père, j'ai péché contre toi et envers le ciel, contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils dit: père, j'ai péché contre toi, pardon, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et des danses. Il appela les serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit: ton frère est de retour et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Amen. Voilà. Donc, si vous achetez une Bible, c'est écrit en rouge des fois les paroles de Jésus, c'est moins lisible. Voilà. Alors, c'est une parabole qu'on connaît par cœur. Et c'est quelque part un retour aux sources. Un retour aux sources, parce que c'est important de retourner aux sources. Et puis il y a un sage de Ransbech qui m'a dit, la répétition fixe la notion. C'est monsieur André Bourman qui m'a dit ça. Donc voilà, et c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pas vraiment une répétition ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ceci, Jésus est en train d'enseigner. Jésus, comme d'habitude, il enseigne publiquement à tout le monde. Et les pharisiens de l'époque et les scribes, les religieux, ceux qui étaient un petit peu la norme, il fallait les ressembler pour être un bon juif, un bon pratiquant. Et eux s'attendent à un certain Messie qui doit revenir, et ils entendent dire que Jésus serait peut-être le Messie, et ils l'écoutent aussi. Pas volontiers, mais ils l'écoutent. Et puis ils s'étonnent que Jésus, juif lui-même, enfreint la loi mosaïque. On ne parle pas à des péagers, on ne mange pas avec des pêcheurs, parce qu'on est souillé, le juif pur. Eh bien, lorsqu'il mange à la table d'un pêcheur, mais ça c'est impensable, c'est penser l'impensable. On ne mange pas avec ces gens-là. Et Jésus, lui, il fait plus que ça. Il les enseigne, il mange avec eux. Autrement dit, il communie avec des gens peu recommandables. Ça, c'est Jésus. Voilà. Et de là, quelque chose se passe. Et c'est pour ça que la parabole va... C'est pour ça que Jésus va dire trois paraboles, en fait. La question suivante, c'est les scribes et les pharisiens, dans leur cœur, pensaient « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » Mais quel scandaleux, quel scandale! C'est quoi ça? On n'a jamais vu ça. Comment est-ce qu'un juif peut se souiller comme ça? Comment c'est possible? Et à cause de cette question-là, Jésus le répond, comme à son habitude, en parabole. Jésus est un prédicateur, si je pouvais avoir un centième, un demi-centième, un deux-centième, de sa puissance, ce serait même un millième. Mais même un dix-millième, allez, je serais d'accord avec ça. Mais même pas. Comme il connaît ce qu'il y a dans le cœur des gens, et à chaque prédication, il fait mouche. C'est-à-dire que comme il connaît ce qu'il y a dans le cœur, il sait quoi dire. Et ici, il répond encore simplement. Jésus aussi ne répond pas aux pharisiens, aux théologiens de l'époque. Bon, j'ai rien contre les théologiens, je suis moi-même. Il y a des gentils théologiens, hein, j'en connais un au moins. Et deux, avec ma femme aussi. Voilà, deux. Claude Villain aussi, ça va encore, trois. Ouais, j'en connais des, il y a des gentils, hein, voilà, il y a des gentils. Et donc les théologiens de l'époque, on aurait pu penser que Jésus leur aurait répondu comment? Mais écoutez, le texte araméen de Daniel dit ceci. D'ailleurs, le philosophe Platon a dit non. Non, Jésus répond, mais du tac au tac, dans un langage de bébé. Ça, c'est étonnant. J'espère qu'ils ne l'ont pas mal pris, mais ça aurait pu être le cas. Et il leur dit d'abord une parabole. Tiens, quel homme parmi vous, c'est juste avant, hein, c'est pour bien comprendre tout ce chapitre-là, il faut commencer au chapitre. Même si la parabole commence au verset 11, on ne sait pas la comprendre sans commencer par le début du verset. Donc Jésus dit trois paraboles pour répondre aux injonctions des pharisiens et des scribes. Et il leur dit, tiens, on n'a pas lu ça, hein, mais vous lirez chez vous, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, en perdu, n'irait pas chercher la perdue et laisserait les 99 là, et quand il a retrouvé, ne se réjouirait-il pas? Puis il continue, une dame qui perdrait une pièce d'argent, hein, est-ce qu'elle ne laverait pas toute sa maison pour la retrouver, et quand elle retrouverait la pièce qu'elle a perdue, ne se réjouirait-elle pas de l'avoir retrouvée? Oui, oui, tiens, deux fois le mot réjouir. Troisième parabole, maintenant il ne parle plus d'une pièce ou d'une brebis, il parle d'un enfant. Un père avait deux fils. Et la première partie, c'est quoi? C'est ce fils qui en a marre d'habiter chez lui. Et il est un peu gauche. Il est un peu gauche, sa demande est violente. On ne dirait pas comme ça, mais c'est une demande très violente. Quand un enfant, imaginez votre enfant vient et dit, écoute, papa, je t'aime bien, maman aussi, vous ne mourrez pas assez vite. C'est ça, hein, Didi? Vous ne mourrez pas assez vite, et moi, j'ai envie de m'éclater ici. Le seul problème, c'est que j'ai 18 ans, j'ai pas d'argent. Par contre, quand je vois vos biens, là, ce serait chouette que vous vendiez tout. Et on est déjà à la moitié maintenant, de sorte que je puisse m'amuser. Autrement dit, alors on va le voir plus loin, il dit à son papa, j'aimerais que tu meures. C'est ça qu'il dit. J'aimerais que tu meures pour jouir de ton patrimoine. Alors, tu dis ça à un papa. Bon, moi, je ne suis pas papa. J'ai quand même élevé mes petits frères et ma petite sœur, mais je ne suis pas papa. Tu dis ça à un papa comme un papa normal, je pense que le petit se prend une torgnole, comme on dit à Liège, et tu dis, va dans ton champ ramasser les carottes, on en reparle dans 10 ans. Hein? Non, le Père, voilà, c'est déjà une attitude du Père. Évidemment, ici, le Père représente Dieu, ça c'est clair. C'est une image de Dieu. On ne peut pas définir Dieu avec une parabole, c'est impossible. C'est une image parmi d'autres. Et ce papa-là, il dit, ok, écoute, voilà, prends ta partie, étonnant. Et le petit, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va s'amuser. Et il s'amuse. Et il s'amuse et il jouit du péché. Vous savez, si le péché était mauvais, enfin, c'est ça, c'est mauvais, mais si le péché faisait mal, on ne le ferait pas automatiquement. Automatiquement, on ne le ferait pas. Mais le problème, c'est que le péché est éphémèrement bon. C'est-à-dire, ça a l'air bien comme ça, quand on est dedans, on se m'amuse. C'est l'église, c'est un peu ennuyeux. Moi, en bois, Dieu, ça c'est autre chose. Hein. Et tu, voilà. Et puis la vie montre que souvent, c'est pas la bonne solution. Et ce petit-là, ben, il fait tout ça. Il fait son expérience. On dirait, il faut que jeunesse se fasse. Et il a fait, et il profite bien. Et un jour, et là, il y a quelque chose qui se passe d'important, il n'a plus rien. Il n'a plus rien, et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il a même faim. Il a faim à même vouloir manger les caroubes que mangeaient les pourceaux. Je ne sais pas, oui, ici, c'est quand même la campagne. L'église avant, c'était à Leuven, il n'y a pas de vache, il n'y a pas de cochon, il n'y a pas de poule. Donc c'est un peu compliqué, mais ici, vous êtes habitué aux cochons et tout ça. Il y en a, des vrais cochons, hein, des vaches et tout ça. On me comprend toujours mal, je ne sais pas pourquoi. Donc des vrais cochons roses et tout ça. Voilà. Et quand j'étais petit, il y avait un fermier, j'allais travailler avec lui. Et il faut vraiment avoir faim pour vouloir manger des cochons. Ils montent dans la mangeoire, ils font leurs besoins dedans, l'autre qui suit, ils mangent tout. Des cochons. Non mais c'est vrai, moi j'ai vu ça. Et voilà. Et il avait tellement faim qu'il se retrouve, voilà, tout seul à manger avec les pourceaux. Et puis un juif de l'époque ne mangeait pas, ne travaillait pas avec les cochons. Pour lui, c'était impur. Donc c'est le dernier travail qu'un juif aurait accepté, c'est garder des pourceaux. Donc il est vraiment au plus bas. Et là, il se passe quelque chose de merveilleux. En lui-même, il regrette ce qu'il a fait. Il regrette sincèrement. Il fait demi-tour. Il a une vie de débauche et il dit, maintenant c'est assez. Je vais rentrer chez mon père, je vais lui demander pardon à Dieu, et je vais rentrer comme un ouvrier. Je pense que c'est normal qu'il me considère plus comme son fils, après ce que je lui ai fait, mais si au moins il peut m'engager comme ouvrier, je suis déjà content. Voilà avec quoi il rentre en tête. Il court, ben il rentre chez lui, et son père, ça c'est aussi impressionnant, quelle image de Dieu. Son père l'attend, pas une semaine, jour après jour, son père l'attend. Il guette quand est-ce qu'il va revenir. Donc il avait l'espoir que son fils allait revenir. Après tout le mal qu'il lui a fait, il aurait pu se dire, mais celui-là c'est un charlatan, il veut ma mort, il prend l'argent de mon labeur, il me laisse tout seul, j'ai plus de travail ici, je dois engager un ouvrier en plus à cause de lui. Enfin, il a laissé vraiment un contexte pas génial pour son papa. Et son père, qu'est-ce qu'il fait? Ça passe au-dessus, et il guette l'arrivée de son fils. Et quand son fils vient, qu'est-ce qu'il fait? Il court. Il lève sa robe, parce qu'à l'époque on avait des robes, il lève sa robe et il court. Un oriental nanti ne s'humilie pas à montrer une partie de sa nudité. À l'époque, il y avait d'autres standards. Et donc, lever sa robe jusqu'au genou et courir, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il y a autre chose qui attendait le fils. Parce que le fils, quand il est rentré, était un peu courageux. Enfin, il fallait du courage. Parce que la culture ambiante de l'époque... Puisque le fils avait humilié publiquement son père, si le fils revient, dans l'option où il revient, eh bien, il y a un rite qui l'attendait. C'est le rite de la Kessasa. On oublie ça, mais c'est un rite. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand un enfant ou un membre du clan humilie le chef du clan, et dans une société patriarcale, ben c'est le père. Le père était vraiment le chef du clan. Quand quelqu'un humilie cette personne-là, eh bien, alors, lorsqu'il revient... Soit on l'accepte, mais à certaines conditions, soit on l'éjecte du clan. Comment ça se passe? On prend une grande jarre remplie de blé et de noix, et alors tout le clan est dans la rue, et on se tape la poitrine, on fait du bruit, tout ça, et on prend la jarre, et on la casse à terre pour dire que le lien qui t'unissait à notre tribu, il est démoli. Donc on te rejette publiquement, tu nous as humiliés publiquement, et bien nous on t'humilie publiquement à notre tour et on ne veut pas que tu reviennes chez nous. C'est ça qu'a donné le fils, le rite de la Kessasa. Et le père qui encore une fois est une image de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il démolit ce rite avant qu'il ne commence. Parce que le fait de se lever, de lever donc sa robe, courir, embrasser devant tout le monde son fils comme ça, à la vue de tous, il l'a embrassé, ça veut dire qu'il lui a évité au fils ce rite de la Kessasa, il a évité à son fils d'être mis dehors du clan, et devant tout le monde, il a restauré, en embrassant son fils, il a restauré comme fils. Quel papa! Quel papa! Il aurait au moins pu se ramasser une petite baffe. Non! Quel papa! Quel Dieu on a! Quel Dieu on a quand il y a, et je dis bien quand il y a vraie repentance, c'est-à-dire. Et alors le fils commence à. C'est ça aussi la vraie repentance. Quand c'est vraiment une vraie repentance, le Père, donc Dieu, n'a même plus besoin d'entendre. Parce que, non, lui, il va dans le cœur, nous pas. Et quand le fils vient, il commence à baragouiner. Ouais, papa, excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Pff, tracasse pas. Allez, tu le voudras en faire la fête. Viens, mon fils, tu reviens, je suis joyeux. Je suis content de te voir, je suis heureux. Et le fils est restauré, il a un anneau, etc. Il est rhabillé. C'est tout un symbole aussi de la restauration comme fils. Et le fils est donc restauré à sa place de fils. Et en plus, on reparle de réjouissance. Comme, tiens, ça c'est bien, pour ceux qui font la théologie, c'est bien de voir le lien sémantique, le lien entre les mots, qui est entre les trois paraboles. Donc la première parabole, c'est que les brebis, quand la brebis est retrouvée, on se réjouit. Quand la drachme est retrouvée, on se réjouit. Quand le fils revient, on se réjouit. Voilà un petit peu ce qui unifie les trois paraboles. C'est la même. Les trois paraboles n'en font qu'une. Donc il faut bien lire les trois. Et alors ici, le père se réjouit et la maison est en pleine réjouissance. J'ai déjà dit ça, mais je vais le dire pour ceux qui n'étaient pas là, parce que c'est important. Ça c'est un verset qu'il faut graver dans sa tête. C'est important. Vous savez que le doute tue. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Le doute tue. Quand un chrétien reste dans le doute à propos de ses péchés, ça le paralyse. Si on n'est pas sûr que Dieu nous pardonne quand on lui demande pardon, ça fait de nous des gens paralysés. Il ne m'aime pas. Est-ce que vraiment Dieu m'a pardonné? Est-ce qu'il ne m'a pas pardonné? C'est dur de recevoir un pardon si généreux. C'est humainement dur d'accepter ça. Je ne mérite pas, mais Dieu me pardonne et il m'aime et il recroit en moi. C'est ça. C'est cette image-là que Dieu montre. Je ne suis pas en train de dire, péchons à fond parce que Dieu parle. C'est pas ça que je dis. Quand il y a repentance, il y a eu une prise de conscience que ce qu'il faisait n'était pas bien. Et quand il y a repentance, eh bien Dieu ne nous rétrograde pas. C'est ça qui est chouette. Dieu a restauré son fils au même niveau qu'avant. Donc lorsqu'on pêche, on ne perd pas des grades, on ne perd pas nos dons, on ne perd pas notre relation avec Dieu. Enfin si, quand on pêche, mais quand on se repent, non, tout est restauré. Lorsqu'il y a une vraie repentance, tout est restauré comme avant. Quel Dieu formidable on a. Et il le fait avec chacun de nous. Et voilà ce que je vais dire, je vais quand même le dire. J'ai déjà dit une fois, mais je vais le redire parce que c'est important. Hébreux 2, 17, pour ceux qui m'ont déjà écouté, ils savent ce que ça va être. Hébreux 2, 17, on va lire ça, parce que ça c'est un texte, c'est un des plus beaux textes, ce qu'on peut dire ça, hein. En tout cas c'est un texte qui moi me touche particulièrement, je vais le dire comme ça, parce qu'il n'y a pas des beaux textes dans la Bible, des pas beaux textes, tout est beau. Alors Hébreux 2, 17, si tu peux le mettre là, B, le deuxième partie du verset, ça c'est vraiment, il faut graver ça, si chaque chrétien grave ça dans son cœur, l'accepte, le met en pratique, et traite les autres chrétiens de la même manière, on aura une vie chrétienne plus épanouie. Je m'explique. Hébreux 2, 17. Donc pour ceux qui étaient là quand j'ai déjà dit ça, c'est une répétition, et comme dit André, ça fixe la notion. Ceux qui n'étaient pas là, c'est bien d'être là aujourd'hui. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation du péché du peuple. Un souverain sacrificateur miséricordieux. Si ce qu'on vient de lire, ce n'est pas un exemple de miséricorde, de compassion, je ne sais pas ce que c'est la compassion. Et ici, il dit, le but de l'incarnation de Jésus-Christ, c'est l'expiation des péchés du peuple. Et j'ai toujours, en français, ça ne rend pas le grec. Malheureusement, ça n'a pas de sens. Si vous lisez ça, il n'y a pas d'impact, moi je trouve. L'expiation, bon, je le souhaite. C'est quoi l'expiation? Bonne question. Le pardon? Mais quand on va gratter un peu plus loin, le mot expiation, c'est de l'or. Ça vient du mot grec hilazei, on oublie. Seulement, c'est un verbe cultuel, c'est-à-dire qu'on utilise ça dans le culte, etc. Et on trouve ça, on utilisait beaucoup ce verbe-là dans l'Ancien Testament. Donc il faut trouver un petit peu quel est le mot hébreu équivalent au mot grec. On ne se perd pas, vous savez que le Nouveau Testament c'est grec, l'Ancien c'est hébreu. Donc pour trouver l'équivalent du mot grec, eh bien il faut trouver l'équivalent d'un dictionnaire comme tout le monde fait. Je l'ai fait, j'ai trouvé l'équivalent. Alors le mot hilazei, donc expié, a trois équivalents en hébreu. Il faut juste retenir la définition. Premier équivalent, c'est cafard. Cafard en hébreu, ce n'est pas les petites bêtes, c'est pas ça. Bref, ce mot-là veut dire couvrir la face de quelqu'un pour qu'il ne voit plus la faute d'un autre. Je répète. Donc c'est expier, c'est couvrir la face de quelqu'un pour qu'il ne voit plus la faute. Deuxième, il y a trois mots en hébreu. Le deuxième mot, c'est salar. Et ça là, ça veut dire quelqu'un me doit un Toblerone, et il y en a qui m'en doivent, parce que ça sonne souvent, hein. Bref, quelqu'un me doit un Toblerone ici, et au lieu de le rappeler, de le punir, parce qu'il ne m'a pas le bon Toblerone, je refuse de le punir. C'est quand même sympa. Donc ça là, c'est ça, c'est refuser de punir quelqu'un alors qu'on aurait bien le droit. Bon, l'exemple de Toblerone n'est pas bon. C'est un exemple de justice, normalement. Hein. Tu as fait un délit. Alors, au niveau de la loi, tu es punissable, eh bien, le juge décide de te gracier, il refuse de te punir. Et le troisième mot, c'est la même chose. Donc, Dieu, donc Jésus-Christ qui s'est incarné en homme, retenez bien ça, c'est salvifique pour notre foi à nous. Dieu, Jésus-Christ qui s'est incarné en homme, s'est incarné pourquoi ? Pour l'expiation des péchés. Autrement dit, Dieu, Jésus-Christ a permis de mourir, enfin, est mort sur la croix, son sang a coulé, de sorte que son sang devient un rideau devant les yeux de Dieu, de sorte que Dieu refuse de nous punir. Le sang de Christ voile les yeux de Dieu pour ne plus qu'il voie notre faute. Ah! Ah! Les yeux de Dieu sont couverts, sont recouverts par le sang de Christ afin que le Christ refuse de nous punir. C'est ça la grâce. C'est ça le sens de l'expiation. Alors vous comprenez bien que quand on lit expiation sans ça en tête, ça n'a pas de sens. Avec ce que je viens de dire, on va le relire ce verset-là, ça a un autre sens. Aussi, Jésus devait-il devenir en tout semblable à ses frères afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation du peuple, pour voiler les yeux de Dieu afin que le peuple ne soit pas puni. Alors, dis-moi un petit peu, quand Dieu te pardonne, qui se rappelle 3 ans après de ton péché? Non. Puisqu'il a refusé de te punir alors que tu t'es repenti. Il a refusé de te punir. 3 ans après, il a encore refusé de te punir. Non, c'est fini. Dieu n'est pas un homme pour oublier. Quand il dit quelque chose, il le fait. Donc Dieu refuse de punir. Et c'est la troisième partie qui commence, c'est intéressante. Ah oui, encore une fois, il y a beaucoup de mots, beaucoup de verbes pour dire amour en grec. Vous savez qu'il y a philéo, l'amour, amitié. Il y a eros, c'est pas dans ce contexte-ci. Il y a storgia. Storgia, c'est important. Storgia, c'est comme c'est l'amour protecteur, l'amour maternel. Hein, c'est l'amour qui protège. Par exemple, une tigresse qui vient d'avoir une nichée, pas comment on dit, une nichée sûrement. Hein. Eh bien, essaye d'approcher. C'est ça l'amour storgia, c'est l'amour protection. Tu ne peux pas approcher. Et puis il y a l'amour agapao, l'agape agapé, qui est un amour un petit peu. Un amour sans rien en retour. Hein, l'amour, voilà. Eh bien, dans cette parabole, on voit ces trois dimensions de l'amour. On voit, premièrement, l'expiation. On voit que Dieu refuse de punir. Il n'y a pas un reproche. C'est magnifique, hein? Pas un reproche. Et on voit ces trois dimensions de l'amour. L'amour qui protège, le Père protège ton Fils et le restaure. l'amour, et là-dedans, il y a trois dimensions. Hein. Quand tu le protèges, ben, c'est ton ami, et c'est ton amour qui est un peu infini. Tu le protèges vraiment. Donc il y a dans cette parabole les trois dimensions de l'amour de Dieu. Il y a plus de verbes en grec, mais je n'ai pas tout les dire. Alors, la fin, le meilleur est toujours pour la fin. Le grand frère, le frère aîné, qui n'a jamais rien fait de mal, lui, il a toujours été là-bas. Et quelque part, on le comprend. Moi, je comprends ça. Parce que le travail de la ferme, c'est laborieux quand même, c'est dur. Hein. Et de la vigne, en tout cas, le travail de la terre. Et lui revient d'avoir été travaillé. Et il entend des danses. Hein. Il attrape un serviteur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ton frère est revenu, on se réjouit. Voilà une bonne. Il part. Lui, il vient de perdre la moitié de son héritage, hein, là. Parce que le fils revient, le jeune fils, il revient. Il est restauré, donc il redevient un fils. Donc la moitié du patrimoine du papa est déjà partie en fumée. Il reste que 50% qui était destiné au vieux, enfin au fils aîné. Et lorsqu'il entend que son petit frère est revenu, ça veut dire que de ses 100% restants, il perd 50, encore une fois. C'est moins marrant, du coup. Hein. C'est moins bling-bling. Alors, évidemment qu'il n'est pas content. Il se dit, s'il pense comme ça, parce que nous, on est toujours un peu mal tourné dans l'esprit, mais bon, s'il pense comme ça, on comprend qu'il n'est pas... Et puis, là, son père... Et son papa, on va voir que le Dieu-Père, Dieu le Père qui est amour, qui va vers le fils pécheur, il a exactement le même amour pour le fils pécheur aussi, qui est sincèrement hypocrite. Il est sincèrement hypocrite. Parce que les mots qu'il utilise, il dit à son père, moi, j'étais comme un esclave ici. Ça, c'est des mots durs. C'est pas une relation de père à fils qu'il avait. C'est une relation d'esclave, c'est-à-dire un esclave, tu dis A, il fait A, tu dis B, il fait B. Ça, c'est pas une relation. Un fils, ça parle. Un fils, ça fait des bêtises. Un fils, ça revient. Il faut faire avec. Ce fils-là, le deuxième fils, n'était pas non plus un fils. Il était ouvrier. Il était un ouvrier de son père, dans son cœur, et son père aussi. Qu'est-ce qu'il fait avec lui? Il dit, écoute, arrête de râler comme ça, il faut se réjouir. Non, il sort. Le même geste qu'il a fait pour... Le fils cadet, il le fait pour le fils aîné, il sort lui-même. Ça aussi pour un père avant ça. C'est le fils qui vient s'humilier, c'est pas le père qui sort. Quel papa? Quel papa? Un comme ça, on n'en fait plus. Et enfin, si tous les papas sont comme ça, je suis sûr, mais autre part, c'est pas comme ça. Et alors, il sort aussi vers ce fils qui finalement n'a pas une relation de père et fils, mais d'esclave. Il sort et lui dit, et il lui fait une révélation, mais toi, tu es mon fils aussi. Tu es aussi mon fils. Tout ce qui te dit est à toi. Profites-en. Tu es aussi mon fils. Et on ne sait pas ce qu'il a fait. La Bible ne le dit pas, je ne peux pas extrapoler. On ne sait pas. Est-ce qu'il est rentré? Est-ce qu'il s'est réjoui? On ne sait pas. Mais en tout cas, je reviens à mes pharisiens du début. Les pharisiens et les scribes, qui représentent un peu le fils aîné, qui sont nés dans la loi de Moïse, etc. Les péagers et les pécheurs qui représentent notre fils. Eh bien, le message que Jésus adresse aux pharisiens, parce que c'est à eux qu'il parle, hein, la parabole, c'est pas pour nous directement. D'abord, c'est pour les pharisiens et les scribes qui critiquent l'attitude de Jésus. Jésus leur répond comme ça. Et vous, allez-vous devenir comme ces pécheurs qui m'écoutent et qui me reçoivent et envers lesquels je deviens père? Est-ce que vous, qui êtes nés dans la loi mosaïque, vous les théologiens, vous les intellectuels, est-ce que vous allez aussi accepter d'être mes enfants? C'est ça, hein, là on est vraiment dans le texte, ça c'est marrant, à la fin on voit, ah ben oui. Et c'est pour ça que le texte reste ouvert. On ne sait pas ce qui va se passer dans le cœur des pharisiens et des scribes. Est-ce qu'ils vont accepter d'être Jésus comme Dieu, et puis d'être fils et plus esclave de la loi, de rentrer ou pas. Alors, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Nous qui sommes nés dans l'Église, moi je ne suis pas né dans l'Église, mais ceux qui sont nés dans l'Église, et nous qui pratiquons tout le temps, est-ce que, nous pratiquons une foi d'esclave, une foi frustrée, parce que c'est une frustration, être un esclave, c'est frustrant. Où on dit, ben, la Bible dit, je fais. Ce qui n'est pas mauvais. C'est mieux de le comprendre pourquoi, évidemment. Moi, je préfère l'attitude qui dit, écoute, j'ai lu la Bible, je ne comprends pas tout. Ce que je comprends, je le mets en pratique. Ça ne me dérange pas quand j'ai compris. Et c'est un peu ça, la grâce. Où est-ce que je me dis, écoute, non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Oui, Dieu, c'est, il est comme ça. Il n'y a pas de compassion. Non. Le Dieu que nous prêchons nous veut avec une relation. On dit ça aux jeunes convertis. Mais je me rends bien compte que des fois, 30 ans, 20 ans, 10 ans après la foi chrétienne, certains n'ont toujours pas cette relation avec le Seigneur, une relation vivante. Je suis en train d'opposer relation avec Jésus-Christ, qui vaut la peine d'être vécu, et religion avec des lois insensées. C'est drôle. Moi, je suis pasteur, mais je suis anti-religieux. Anti-religieux. Mais la religion me donne des boutons. Ça me donne des boutons. Je me suis converti parce que j'ai commencé une relation avec le Seigneur et elle continue. Ça, c'est autre chose. Alors, évidemment, je deviens religieux. On est religieux quand on croit. Mais une religion éclairée, de relation, ça n'a rien à voir avec une religion décalée qui fait mal. Parce que le grand frère, et je termine avec ça, le grand frère aurait pu faire comme tout le monde. C'est-à-dire, aurait pu vraiment attraper son petit frère et lui dire ses quatre vérités. T'es pas gêné, t'es vraiment un assassin, papa est malade à cause de toi, on met plein de poids comme ça, hein, sur les épaules. Hein. T'es parti, t'as été voir des prostituées, t'as usé mon argent, celui de papa, tu lui as fait, il a pleuré pour toi, moi j'ai travaillé deux fois plus, on a perdu du rendement, et vous voyez, on charge le... Et il y a des paroles comme ça, c'est des paroles, hein, qui tuent, qui blessent à vie. Et je ne savais pas ça avant quand j'étais plus jeune, maintenant que je suis un peu moins jeune, pas encore vieux, moins jeune, je remarque qu'il y a des paroles qui ont négatives, qui ont un tel effet qu'on ne guérit jamais vraiment. Je pense qu'on gère. Alors on va me dire, oui mais Jésus pardonne tout ça, et Jésus il va t'aider. Ouais, mais des fois c'est dur. Même si Jésus t'aide et te pardonne, même si la pensée... J'ai des cicatrices un petit peu partout, j'ai eu des accidents, vous savez, et il y a toujours la marque. Hein. Je suis guéri, ça ne saigne plus, mais il y a la marque. Et quand on touche, c'est toujours un peu plus sensible. Hein. Donc, oui, Dieu nous fait oublier, Dieu nous demande de pardonner, on pardonne aussi, mais les paroles sont meurtrières. Et des chrétiens marchent avec ça 20, 30, 40 ans. Tu sais, il y a 20 ans, il m'a dit ça. Et ça reste. Et ça fait mal. Pourquoi je dis ça? Parce que le papa qu'on a... Vous savez, moi, j'ai pas eu mon papa. Vous savez l'histoire. Pareil, je ne vais pas répéter la même chose. Jamais, j'ai 38 ans, jamais j'ai eu un anniversaire à mon petit. Jamais. Pas une carte. Pas un coup. Il m'a jamais téléphoné. C'est marrant. Mais si je pouvais pleurer, je le ferais. Je pleure plus. Mais un jour, ça va sortir. Jamais un coup de téléphone, jamais. Quand tu le voyais, c'est ta mère ceci, ta mère cela. Toutes tes paroles. Et une fois, je lui ai dit, papa, je me suis converti, je vais faire la théologie. T'es bien biaise. Quelle relation? Bon, après, il s'est converti et je lui ai pardonné tout ça. Mais sur le moment. Donc voilà. Évidemment, les papas sont un peu mal aujourd'hui. Je veux vexer personne, hein, c'est pas le but. Mais trois choses pour conclure, trois, quatre choses. Voilà le Père que nous avons. Et est-ce qu'on ne dit pas tel Père, tel Fils? Est-ce qu'on ne dit pas ça? Alors moi, mon Père, c'est lui. Alors, je suis loin d'arriver à ça, mais mon exemple, c'est lui. Et c'est lui que je veux suivre. Est-ce que le papa ne peut pas être un peu... Bien sûr qu'il peut être sévère, mais est-ce que le papa ne peut pas aussi avoir ce travail de restauration, d'amour? Est-ce qu'un père ne peut pas montrer l'amour à ses enfants et puis dire je t'aime, tu sais, je m'intéresse à ce que tu fais, etc. Vous savez comment ça va. Donc ce père-là qui restaure, qui ne fait pas de reproches, ce père qui, quand il parle, il construit. Les paroles qu'il dit à ses fils, c'est des constructions. Il construit. Il construit le petit, il construit le grand, c'est ça. Et nous, comme chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est là la question du jour. Qu'est-ce qu'on fait comme chrétiens? Imaginons, on a ça. Vous connaissez quelqu'un, machin, bazar. Peut-être votre fils, votre fille, votre cousin, votre cousine. Un chrétien d'église. Comment on va lui parler? Je dis bien, s'il y a repentance. Et la repentance, le fils n'a pas fait à la chair et tout ça. Vous pouvez le faire, pas de problème. Mais il l'a fait dans son cœur. Quand il y a une vraie repentance, qui sommes-nous pour démolir avec notre bouche, avec notre langue, la psychologie de quelqu'un, l'âme de quelqu'un? Normalement, c'était un message agréable, mais ça finit un peu. Donc voilà. En tout cas, essayons. Essayons d'être des parents corrects, qui, quand il faut sévir, on sévit, mais quand il faut dire des paroles qui édifient, faisons-le aussi. Soyons des chrétiens, pas religieux, mais des chrétiens fils et filles. C'est ça que Dieu veut de nous. Et puis, réjouissons-nous. Réjouissons-nous quand quelqu'un se repent. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie parce que ces paraboles qui ont l'air pas faciles comme ça, c'est pas si facile, Seigneur. Merci de nous avoir rappelé ce matin quel père tu es pour nous. Ça, c'est merveilleux, Seigneur. Quel papa tu es pour nous. Un papa qui aime. Un papa qui a pas peur de s'humilier pour ses enfants. Un papa qui restaure ses enfants. Et un papa qui va vers... qui fait même des pas vers les fils rebelles. Seigneur, merci pour ça. Merci pour cette petite image de toi. Cette infime partie de ce que tu es qu'on a vu aujourd'hui, Seigneur. Eh bien, ma prière, c'est que nous puissions mettre ça en pratique. Et puis aussi, Seigneur, moi, je ne voudrais pas être un esclave. Je voudrais être un fils. Je pense que c'est la prière de mon frère et de ma sœur ce matin, ainsi, Seigneur. Bien que nous puissions aussi peut-être recommencer cette relation avec toi, Seigneur. Et puis aussi, que si quelqu'un a péché, Seigneur, tu n'es pas celui qui accuse, tu es celui qui pardonne quand tu as une vraie repentance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen.